Victor Hugo, le satyre. Un satyre habitait l'Olympe, retiré dans le grand bois sauvage au pied du mont sacré. Il vivait là, chassant, rêvant, parmi les branches, nuit et jour poursuivant les vagues formes blanches. Il tenait à l'affût les 12 ou 15 sens qu'un faune peut braquer sur les plaisirs passants. Qu'était-ce que ce faune ? On l'ignorait. Et Flore ne le connaissait point, ni Vespère, ni l'aurore, qui sait tout, surprenant le regard du réveil. On avait beau parler à l'églantier vermeil, interroger le nid, questionner le souffle, personne ne savait le nom de ce maroufle. Les sorciers dénombraient presque tous les sylvains. Les égypans étant fameux comme les vins, en voyant la colline, on nommait le satyre. On connaissait Stulcas, faune de Palantir, Gès qui le soir riait sur le ménal assis, Bos, l'égypan de Crète. On entendait Crisis, sylvain du Ptix que l'homme appelle Janicule, qui jouait de la flûte au fond du crépuscule. Anthrops, faune du Pinde, était cité partout, celui-ci nulle part. Les uns le disaient loup, d'autres le disaient dieu, prétendant s'y connaître. Mais en tout cas qu'il fût tout ce qu'il pouvait être, c'était un garnement de dieu fort mal famé. Tout craignait ce sylvain à toute heure allumé. La bacchante elle-même en tremblait, les nappées s'allaient blottir au trou des roches escarpées. Écho barricadait son antre trop sûr, pour ce songeur velu fait de fange et d'azur, l'Andria dans sa grotte était dans une alcôve, de la forêt profonde il était l'amant fauve. Sournois pour se jeter sur elle, il profitait du moment où la nymphe, à l'heure où tout se tait, éclatante, apparaît dans le miroir des sources. Il arrêtait Lycère et Chloé dans leur course, il guettait dans les lacs qu'ombrage le bouleau, la naïade qu'on voit radieuse sous l'eau, comme une étoile ayant la forme d'une femme. Son œil lascif errait la nuit comme une flamme, il pillait les appâts splendides de l'été, il adorait la fleur, cette naïveté, il couvait d'une tendre et vaste convoitise le muguet, le troène embaumé, le citise, et ne s'endormait pas même avec le pavot. Ce libertin était à la rose dévot. Il était fort infâme au mois de mai. Cet être traité, regardant tout comme par la fenêtre, Flore de Mijaurée et Zéphyr de Marmot. Si l'eau murmurait « J'aime », il la prenait au mot et saisissait l'ondée en fuite sous les herbes. Ivre de leur parfum, vautré parmi leurs gerbes, il faisait une telle orgie avec les lys, les myrtes, les sorbiers de ses baisers pâlis, et de tels amours que, témoin du désordre, le chardon, ce jaloux, s'efforçait de le mordre. Il était si crûment dans les excès plongés qu'il était dénoncé par la caille et le jet. Son bras, toujours tendu vers quelque blonde tresse, traversait l'ombre. Après les mois de sécheresse, les rivières qui n'ont qu'un voile de vapeur, allant remplir leur urne à la pluie, avaient peur de rencontrer sa face effrontée et cornue. Un jour, se croyant seule et s'étant mise nue pour se baigner au flot d'un ruisseau clair, Psyché l'aperçut tout à coup dans les feuilles cachées, et s'enfuit, et s'alla plaindre dans l'Empyrée. Il avait l'innocence impudique de Ré, son caprice à la fois divin et bestial, monté jusqu'au rocher sacré de l'idéal, car partout où l'oiseau vole, la chèvre y grimpe. Ce faune débraillait la forêt de l'Olympe. Et de plus, il était voleur, l'aventurier. Hercule l'alla prendre au fond de son terrier et l'amena devant Jupiter par l'oreille. Quand le satyre fut sur la cime vermeille, quand il vit l'escalier céleste commençant, on eût dit qu'il tremblait tant c'était ravissant, et que, rictus ouvert au vent, tête éblouie à la fois par les yeux l'odorat et l'ouïe, faune ayant de la terre encore à ses sabots, il frissonnait devant les cieux sereins et beaux. Quoiqu'à peine fût-il au seuil de la caverne de rayons et d'éclairs que Jupiter gouverne, il contemplait l'azur des Pléiades voisins. Béant, il regardait passer, comme un essaim de molles nudités sans fin continuées, toutes ces déités que nous nommons nuées. C'était l'heure où sortaient les chevaux du soleil. Le ciel tout frémissant du glorieux réveil ouvrait les deux battants de sa porte sonore. Blancs, ils apparaissaient, formidables d'aurore. Derrière eux, comme un orbe effrayant, couvert d'yeux, éclatait la rondeur du grand char radieux. On distinguait le bras du dieu qui les dirige, à qui l'on achevait d'atteler le quadrige. Les quatre ardents chevaux dressaient leur poitrail d'or. Faisant leur premier pas, ils se cabraient encore entre la zone obscure et la zone enflammée. De leur crin, d'où semblait sortir une fumée de perles, de saphirs, d'onyx, de diamants dispersés et fuyant au fond des éléments, les trois premiers, l'œil fier, la narine embrasée, secouaient dans le jour des gouttes de rosée, le dernier secouait des astres dans la nuit. Le ciel, le jour qui monte et qui s'épanouit, la terre qui s'efface et l'ombre qui se dort, ses hauteurs, ses splendeurs, ses chevaux de l'aurore, dont le hennissement provoque l'infini, tout cet ensemble auguste, heureux, calme, béni, puissant, pur, rayonnait. Un coin était farouche. Là brillaient, près de l'antre où Gorgone se couche, les armes de chacun des grands dieux que l'OTAN gardait sévère assis sur des os de titan. Là reposait la force avec la violence. On voyait, chaud encore, fumer les fers de lance. On voyait des lambeaux de chair aux coutelas de Bellone, de Mars, d'Hécate et de Pallas. Des cheveux au trident et du sang à la foudre. Si le grain pouvait voir la meule prête à moudre, si la ronce du bouc apercevait la dent, ils auraient l'air pensif du sylvain regardant les armures des dieux dans le bleu vestiaire. Il entra dans le ciel, car le grand bestiaire tenait sa large oreille et ne le lâchait pas. Le bon faune crevait l'azur à chaque pas. Il boitait, tout gêné de sa fange première. Son pied fourchu faisait des trous dans la lumière. La monstruosité brutale du sylvain étant lourde et hideuse aux nuages divins. Il avançait, ayant devant lui le grand voile sous lequel le matin glisse sa fraîche étoile. Soudain, il se courba sous un flot de clarté, et, le rideau s'étant tout à coup écarté, dans leur immense joie, il vit les dieux terribles. Ces êtres surprenants et forts, ces invisibles, ces inconnus profonds de l'abîme étaient là, sur 12 trônes d'or que Vulcain cisela, à la table où jamais on ne se rassasit. Ils buvaient le nectar et mangeaient l'ambroisie. Vénus était devant et Jupiter au fond. Cypris, sur la blancheur d'une écume qui fond, reposait mollement, nue et surnaturelle, sainte du flamboiement des yeux fixés sur elle, et, par moments, avec l'encens, les cœurs, les vœux, toute la mer semblait flotter dans ses cheveux. Jupiter, aux trois yeux, songeait, un pied sur l'aigle. Son sceptre était un arbre ayant pour fleur la règle. On voyait dans ses yeux le monde commencer, et dans l'un le présent, dans l'autre le passé, dans le troisième errer l'avenir comme un songe. Il ressemblait au gouffre où le soleil se plonge. Des femmes, Danaé, Latone, Sémélé, flottaient dans son regard. Sous son sourcil voilé, sa volonté parlait à sa toute puissance. La nécessité morne était sa réticence. Il a signé les sorts, et ses réflexions étaient gloire au Cadmus et roue aux Ixions. Sa rêverie, où l'ombre affreuse venait faire des taches de noirceur sur un fond de lumière, était comme la peau du léopard tigré. Selon qu'il s'écartait ou s'approchait au gré de ses décisions clémentes ou funèbres, son pouce et son index faisaient dans les ténèbres s'ouvrir ou se fermer les ciseaux d'Atropos. La radieuse paix naissait de son repos, et la guerre sortait du pli de sa narine. Il méditait avec Thémis dans sa poitrine, calme et si patient que les sœurs d'Arachné, entre le froid conseil de Minerve émané et l'ordre redoutable attendu par Mercure, filaient leur toile au fond de sa pensée obscure. Derrière Jupiter rayonnait Cupidon, l'enfant cruel, sans pleurs, sans remords, sans pardon, qui, le jour qu'il naquit, riait, se sentant d'âge, à commencer du haut des cieux son brigandage. L'univers apaisé, content, mélodieux, faisait une musique autour des vastes dieux. Partout où le regard tombait, c'était splendide, toute l'immensité n'avait pas une ride. Le ciel réverbérait autour d'eux leur beauté, le monde les louait pour l'avoir bien dompté. La bête aimait leurs arcs, l'homme adorait leurs piques, ils savouraient ainsi que des fruits magnifiques, leurs attentats bénis, heureux, inexpiés. Les haines devenaient des lyres sous leurs pieds, et même la clameur du triste lac Stymphale, parti horrible et rauque, arrivé triomphal. Au-dessus de l'Olympe éclatant, au-delà du nouveau ciel qui naît et du vieux qui croula, plus loin que les chaos, prodigieux décombres, tournait la roue énorme aux 12 cages sombres. Le zodiaque ayant autour de ses essieux 12 spectres tordant leurs chaînes dans les cieux. Ouverture du puits de l'infini sans borne, cercle horrible où le chien fuit près du capricorne, orbe inouï mêlant dans l'azur nébuleux aux lions constellés les sagittaires bleus. Jadis, longtemps avant que la lyre thébaine ajoutât des clous d'or à sa conque d'ébène, ces êtres merveilleux que le destin conduit étaient tout noirs, ayant pour mer l'âpre nuit. Lorsque le jour parut, il leur livra bataille, lutte affreuse, il vainquit, l'ombre encore en tressaille. De sorte que, percés des flèches d'Apollon, tous ces monstres partout, de la tête aux talons, en souvenir du sombre et lumineux désastre, ont maintenant la plaie incurable d'un astre. Hercule, de ce point qui peut fendre l'ossa, lâchant subitement le captif, le poussa sur le grand pavé bleu de la céleste zone. « Va !» dit-il, et l'on vit apparaître le faune, hérissé, noir, hideux, et cependant serein, pareil au bouc velu qu'à Smyrne le marin, en souvenir des prés, peint sur les blanches voiles. L'éclat de rire fou monta jusqu'aux étoiles, si joyeux qu'un géant enchaîné sous le mont leva la tête et dit « Quel crime font-ils donc ?» Jupiter le premier rit, l'orageux Neptune se dérida, changeant la mer et la fortune. Une heure qui passait avec son sablier s'arrêta, laissant l'homme et la terre oubliés. La gaieté fut devant ses narines camuses si forte qu'elle osa même aller jusqu'aux muses. Vénus tourna son front dont l'aube se voila et dit « Qu'est-ce que c'est que cette bête-là ?» Et Diane chercha sur son dos une flèche. L'urne du Potamos, étonnée, resta sèche. La colombe ferma ses 12 yeux et le pan de sa roue arrogante insulta l'Égypte. Les déesses riaient toutes comme des femmes. Le faune, haletant parmi ces grandes dames, cornu, boiteux, difforme, alla droit à Vénus. L'homme chèvre ébloui regarda ses pieds nus. Alors on se pâma. Mars embrassa Minerve, Mercure prit la taille à Bélone avec verve, la meute de Diane aboya sur le tas, le tonnerre n'y put tenir, il éclata. Les immortels penchés parlaient aux immortels. Vulcain dansait, Pluton disait des choses telles que Momus en était presque déconcerté. Pour que la reine pût se tordre en liberté, Hébé cachait Junon derrière son épaule, et l'hiver se tenait les côtes sur le pôle. Ainsi, les dieux riaient du pauvre paysan. Et lui disait tout bas à Vénus « Viens-nous-en !» Nulle voix ne peut rendre et nulle langue écrire le bruit divin que fit la tempête du rire. Hercule dit « Voilà le drôle en question !»« Faune, dit Jupiter, le grand amphictyon, tu mériterais bien qu'on te changeât en marbre, en flot, ou qu'on te mît au cachot dans un arbre. Pourtant je te fais grâce, ayant ri. Je te rends à ton antre, à ton lac, à tes bois murmurants. Mais pour continuer le rire qui te sauve, gueux, tu vas nous chanter ton chant de bête fauve. L'Olympe écoute. Allons, chante. » Le chèvre-pied dit « Mes pauvres pipeaux sont tout estropiés. Hercule ne prend pas bien garde lorsqu'il entre. Il a marché dessus en traversant mon antre. Or, chanter sans pipeaux, c'est fort contrariant. » Mercure lui prêta sa flûte en souriant. L'humble Égypan, figure à l'ombre habituée, alla s'asseoir rêveur derrière une nuée, comme si, moins voisin des rois, il était mieux, et se mit à chanter un chant mystérieux. L'aigle, qui seul n'avait pas ri, dressa la tête. Il chanta, calme et triste. Alors, sur le Tégète, sur le Mysis, au pied de l'Olympe divin, partout on vit, au fond du bois et du ravin, les bêtes qui passaient leur tête entre les branches. La biche à l'œil profond se dressa sur ses hanches, et les loups firent signe au tigre d'écouter. On vit, selon le rythme étrange, s'agiter le haut des arbres, cèdres, ormeaux, pins qui murmurent, et les sinistres fronts des grands chênes s'émurent. Le faune énigmatique, aux grâces odieux, ne semblait plus savoir qu'il était chez les dieux. Le satyre chanta la terre monstrueuse, l'eau perfide sur mer dans les champs tortueuses, sembla dans son prélude errer comme à travers les sables, les graviers, l'herbe et les roseaux verts. Puis il dit l'océan, typhon couvert de bave, puis la terre lugubre avec toutes ses caves, son dessous effrayant, ses trous, ses entonnoirs, où l'ombre se fait onde, où vont des fleuves noirs, où le volcan noyé sous d'affreux lacs regrette la montagne, son casque et le feu, son aigrette, où l'on distingue, au fond des gouffres inouïs, les vieux enfers éteints des dieux évanouis. Il dit la sève, il dit la vaste plénitude de la nuit, du silence et de la solitude, le froncement pensif du sourcil des rochers. Sorte de mer ayant les oiseaux pour nocher, pour algue le buisson, la mousse pour éponge, la végétation aux mille têtes songe. Les arbres pleins de vent ne sont pas oublieux. Dans la vallée, au bord des lacs, sur les hauts lieux, ils gardent la figure antique de la terre. Le chêne est entre tous, profond, fidèle, austère. Il protège et défend le coin du bois ami, où le gland l'engendra, s'entr'ouvrant à demi, où son ombrage attire et fait rêver le pâtre. Pour arracher de là ce vieil opiniâtre, que d'efforts, que de peines aux rudes bûcherons. Le sylvain raconta Dodone et Cithéron, et tout ce qu'au bas-fond des muses, sur les rimantes, sur l'hymette, l'autant tumultueux tourmente. Avril avec Tellus prise en flagrant délit, les fleuves recevant les sources dans leur lit, la grenade montrant sa chair sous sa tunique, le rut religieux du grand cèdre cynique, et dans l'âcre épaisseur des branchages flottants, la palpitation sauvage du printemps. Tout l'abîme est sous l'arbre énorme comme une urne, la terre sous la plante ouvre son puits nocturne, plein de feuilles, de fleurs et de la main mouvant des rameaux que plus tard soulèvera le vent. Et dit, vivez! Prenez, c'est à vous, prends brin d'herbe, prends sapin. La forêt surgit, l'arbre superbe fouille le globe avec une hydre sous ses pieds. La racine effrayante, au long cou replié, aux mille becs béants dans la profondeur noire, descend, plonge, atteint l'ombre et tâche de la boire. Et, bu au gré de l'air, du lieu, de la saison, l'offre au ciel en encens ou la crache en poison. Selon que la racine embaumée ou malsaine sort parfum de l'amour ou venin de la haine. De là, pour les héros, les grâces et les dieux, l'œillet, le laurier rose ou le lys radieux, et pour l'homme qui pense et qui voit, la ciguë. Mais qu'importe à la terre, au chaos contigu, elle fait son travail d'accouchement sans fin, elle a pour nourrisson l'universel fin. C'est vers son sein qu'en bas les racines s'allongent. Les arbres sont autant de mâchoires qui rongent les éléments et partent dans l'air souple et vivant. Ils dévorent la pluie, ils dévorent le vent, tout leur est bon. La nuit, la mort, la pourriture voit la rose et lui va porter sa nourriture. L'herbe vorace broute au fond des bois touffus. À toute heure on entend le craquement confus des choses sous la dent des plantes. On voit paître au loin de toutes parts l'immensité champêtre. L'arbre transforme tout dans son puissant progrès. Il faut du sable, il faut de l'argile et du grès. Il en faut aux lentisques, il en faut à l'ieuse, il en faut à la ronce. Et la terre joyeuse regarde la forêt formidable manger. Le satyre semblait dans l'abîme songer. Il peignit l'arbre vu du côté des racines, le combat souterrain des plantes assassines, l'antre que le feu voit, qu'ignore le rayon, le revers ténébreux de la création. Comment filtre la source et flambe le cratère. Il avait l'air de suivre un esprit sous la terre. Il semblait épeler un magique alphabet. On eût dit que sa chaîne invisible tombait. Il brillait. On voyait s'échapper de sa bouche son rêve avec un bruit d'ailes vagues et farouches. Les forêts sont le lieu lugubre, la terreur noire y résiste même au matin, ce d'horreur. Les arbres tiennent l'ombre enchaînée à leurs tiges. Derrière le réseau ténébreux des vertiges, l'aube est pâle et l'on voit se tordre les serpents des branches sur l'aurore, horribles et rampants. Là, tout tremble, au-dessus de la ronce hagarde, le mont, ce grand témoin, se soulève et regarde. La nuit, les hauts sommets noyés dans la vapeur, les antres froids ouvrant la bouche avec stupeur. Les blocs, ces durs profils, les rochers, ces visages, avec qui l'ombre voit dialoguer les sages, guettent le grand secret, muet, le cou tendu. L'œil des montagnes s'ouvre et contemple éperdu. On voit s'aventurer dans les profondeurs fauves la curiosité de ces noirs géants chauves. Ils scrutent le vrai ciel de l'Olympe inconnu. Ils tâchent de saisir quelque chose de nu. Ils sondent l'étendue auguste, chaste, austère, irritée. Et parfois, surprenant le mystère, aperçoivent la cause au pur rayonnement et l'énigme sacrée au loin, sans vêtements, montrant sa forme blanche au fond de l'insondable. Ô nature terrible, ô lien formidable du bois qui pousse avec l'idéal contemplé, bain de la déité dans le gouffre étoilé, farouche nudité de la diane sombre qui, de loin regardée et vue à travers l'ombre, fait croître au front des rocs les arbres monstrueux. Ô forêt! Le sylvain avait fermé les yeux. La flûte que, parmi des mouvements de fièvre, il prenait et quittait, importunait sa lèvre. Le faune la jeta sur le sacré sommet. Sa paupière était close, on eût dit qu'il dormait, mais ses cils roux laissaient passer de la lumière. Il poursuivit. Salut, chaos, gloire à la terre! Le chaos est un dieu, son geste est l'élément, et lui seul a ce nom sacré, commencement. C'est lui qui, bien avant la naissance de l'heure, surprit l'aube endormie au fond de sa demeure. Avant le premier jour et le premier moment. C'est lui qui, formidable, appuya doucement la gueule de la nuit aux lèvres de l'aurore. Et c'est de ce baiser qu'on vit l'étoile éclore. Le chaos est l'époux lascif de l'infini. Avant le verbe, il a rugi, sifflé, henni. Les animaux, aînés de tout, sont les ébauches de sa fécondité comme de ses débauches. Fussiez-vous Dieu ? Songez en voyant l'animal, car il n'est pas le jour, mais il n'est pas le mal. Toute la force obscure et vague de la terre est dans la brute, larve auguste et solitaire. La sibylle au front gris le sait, et les devins le savent, ces rôdeurs des sauvages ravins. Et c'est là ce qui fait que la thessalienne prend des touffes de poils aux cuisses de l'hyène. Et Corphée, écouté, hagard, presque jaloux, le chant sombre qui sort du hurlement des loups. Marsyas, murmura Vulcain, l'envieux louche. Apollon, attentif, mit le doigt sur sa bouche. Le faune ouvrit les yeux et peut-être entendit. Calme, il prit son genou dans ses deux mains et dit « Et maintenant, ô Dieu, écoutez ce mot, l'âme. Sous l'arbre qui bruit, près du monstre qui brame, quelqu'un parle, c'est l'âme. Elle sort du chaos. Sans elle, pas de vent, le miasme. Pas de flot, l'étang. L'âme, en sortant du chaos, le dissipe. Car il n'est que l'ébauche, et l'âme est le principe. L'être est d'abord moitié brute et moitié forêt. Mais l'air veut devenir esprit, l'homme apparaît. L'homme, qu'est-ce que c'est que ce sphinx? Il commence en sagesse, ô mystère, et finit en démence. Ô ciel qu'il a quitté, rends-lui son âge d'or. Le faune, interrompant son orageux essor, ouvrit d'abord un doigt, puis deux, puis un troisième, comme quelqu'un qui compte en même temps qu'il sème, et cria sur le haut Olympe vénéré. Ô Dieu, l'arbre est sacré, l'animal est sacré, l'homme est sacré. Respect à la terre profonde. La terre où l'homme crée, invente, bâtit, fonde, géant possible encore caché dans l'embryon. La terre où l'animal erre autour du rayon. La terre où l'arbre ému prononce des oracles dans l'obscur infini tout empli de miracles. Et le prodige, ô Dieu, le plus proche de vous. C'est le globe inconnu qui vous emporte tous, vous les éblouissants, la grande bande altière, qui dans des coupes d'or buvez de la lumière, vous qu'une aube précède et qu'une flamme suit, vous les dieux à travers la formidable nuit. » La sueur ruisselait sur le front du satyre, comme l'eau du filet que des mers on retire. Ses cheveux s'agitaient comme au vent libyen. Phoebus lui dit « Veux-tu la lire ?»«
Je veux bien. » dit le faune, et tranquille, il prit la grande lyre.
Alors, il se dressa, debout dans le délire, des rêves, des frissons, des aurores, des cieux, avec deux profondeurs splendides dans les yeux.
« Il est beau !» murmura Vénus, épouvantée,
et Vulcain, s'approchant d'Hercule, dit « Hanté !» Hercule repoussa du coude ce boiteux. Il ne les voyait pas, quoiqu'il fût devant eux. Il chanta l'homme, il dit cette aventure sombre, l'homme, le chiffre élu, tête auguste du nombre, effacé par sa faute et désastreux reflux, retombé dans la nuit de ce qu'on ne voit plus. Il dit les premiers temps, le bonheur, l'Atlantide, comment le parfum pur devint miasme fétide, comment l'hymne expira sous le clair firmament, comment la liberté devint joug, et comment le silence se fit sur la terre domptée. Il ne prononça pas le nom de Prométhée, mais il avait dans l'œil l'éclair du feu volé. Il dit l'humanité mise sous le scellé, il dit tous les forfaits et toutes les misères, depuis les rois peu bons jusqu'aux dieux peu sincères. Tristes hommes, ils ont vu le ciel se fermer, en vain pieux, ils ont commencé par s'aimer. En vain frères, ils ont tué la haine infâme, le monstre à l'aile onglée, aux sept gueules de flamme. Hélas, comme Cadmus, ils ont bravé le sort. Ils ont semé les dents de la bête. Il en sort des spectres tournoyants comme la feuille morte, qui combattent l'épée à la main et qu'emportent l'évanouissement du vent mystérieux. Ces spectres sont les rois, ces spectres sont les dieux. Ils renaissent sans fin, ils reviennent sans cesse, l'antique égalité devient sous eux bassesse. Dracon donne la main à Busiris, la mort se fait code et se met aux ordres du plus fort, et le dernier soupir, libre et divin, s'exhale sous la difformité de la loi colossale. L'homme se tait, ployé sous cet entassement. Il se venge, il devient pervers, il vole, il ment. L'âme inconnue et sombre a des vices d'esclave. Puisqu'on lui met un mont sur elle, elle en sort lave. Elle brûle et ravage au lieu de féconder. Et dans le chant du faune, on entendait gronder tous les seins des fléaux furieux qui se lèvent. Il dit la guerre, il dit la trompette et le glaive, la mêlée en feu, l'homme égorgé sans remords, la gloire et dans la joie affreuse de la mort, les plis voluptueux des bannières flottantes. L'aube naît, les soldats s'éveillent sous les tentes, la nuit même en plein jour les suit, planant sur eux. L'armée en marche ondule au fond des chemins creux, la baliste en roulant s'enfonce dans les boues, l'attelage fumant tire et l'on pousse aux roues. Cris des chefs, pas confus, les moyeux des charrois balafrent les talus des ravins trop étroits. On se rencontre, oh choc hideux, les deux armées se heurtent de la même épouvante enflammée, car la rage guerrière est un gouffre d'effroi. Oh vaste effarement, chaque bande a son roi. Perse, épée, oh cognée, abat, massue, assomme. Cheval, foule aux pieds l'homme, et l'homme, et l'homme, et l'homme. Homme, tuez, traînez les chars, roulez les tours. Maintenant, pourrissez, et voici les vautours. Des guerres sans fin naît le glaive héréditaire. L'homme fuit dans les trous, au fond des bois, sous terre, et soulevant le bloc qui ferme son rocher, écoute s'il entend les rois là-haut marcher. Il se hérisse, l'ombre aux animaux le mêle, il déchoit, plus de femme il n'a qu'une femelle, plus d'enfants des petits. L'amour qui le séduit est fils de l'indigence et de l'air de la nuit. tous ces instincts sacrés à la fange aboutissent. Les rois, après l'avoir fait taire, l'abrutissent, si bien que le bâillon est maintenant un mort. Et sans l'homme, pourtant, les horizons sont morts. Qu'est la création sans cette initiale? Seul sur la terre il a la lueur faciale. Seul il parle, et sans lui, tout est décapité. Et l'on vit poindre aux yeux du faune la clarté de deux larmes coulant comme à travers la flamme. Il montra tout le gouffre acharné contre l'âme, les ténèbres croisant leurs funestes rameaux, et la forêt du sort et la meute des maux, les hommes se cachant, les dieux suivant leurs pistes. Et pendant qu'il chantait toutes ces strophes tristes, le grand souffle vivant, ce transfigurateur, lui mettait sous les pieds la céleste hauteur. En cercle autour de lui se taisaient les borées, et comme par un fil invisible tiré, les brutes, loups, renards, ours, lions, chevelus, panthères, s'approchaient de lui de plus en plus. Quelques-unes étaient si près des dieux venus, pas à pas, qu'on voyait leur gueule dans la nue. Les dieux ne riaient plus. Tous ces victorieux, tous ces rois, commençaient à prendre au sérieux cette espèce d'esprit qui sortait d'une bête. Il reprit. Donc, les dieux et les rois sur le fait, l'homme en bas, pour valer aux tyrans les fléaux, l'homme ébauché ne sort qu'à demi du chaos, et jusqu'à la ceinture il plonge dans la brute. Tout le trahit, parfois il renonce à la lutte. Où donc est l'espérance? Elle a lâchement fui. Toutes les surdités s'entendent contre lui. Le sol l'alourdit, l'air l'enfièvre, l'eau l'isole. Autour de lui la mer sinistre se désole. Grâce aux hideux complots de tous ses guet-apens, les flammes, les éclairs sont contre lui serpents. Ainsi que le héros, l'Aquilon le soufflette, la peste aide le glaive, et l'élément complète le despote, et la nuit s'ajoute au conquérant. Ainsi, la chose vient mordre aussi l'homme, et prend assez d'âme pour être une force complice de son impénétrable et nocturne supplice. Et la matière, hélas, devient fatalité. Pourtant, qu'on prenne garde à se déshériter. Dans l'ombre, une heure est là qui s'approche et frissonne, qui sera la terrible et qui sera la bonne, qui viendra te sauver, homme, car tu l'attends, et changer la figure implacable du temps. Qui connaît le destin? Qui sonda le peut-être? Oui, l'heure énorme vient qui fera tout renaître, vaincra tout, changera le granit en aimant, fera pencher l'épaule au morne escarpement et rendra l'impossible aux hommes praticable. Avec ce qui l'opprime, avec ce qui l'accable, le genre humain se va forger son point d'appui. Je regarde le gland qu'on appelle aujourd'hui, j'y vois le chêne. Un feu vit sous la cendre éteinte. Misérable homme, fait pour la révolte sainte, ramperas-tu toujours par ce que tu rends pas? Qui sait si quelque jour on ne te verra pas, fier, suprême, atteler les forces de l'abîme et dérobant l'éclair à l'inconnu sublime, lier ce char d'un autre à des chevaux à toi? Oui, peut-être on verra l'homme devenir loi, terrasser l'élément sous lui, saisir et tordre cette anarchie au point d'en faire jaillir l'ordre, le saint ordre de paix, d'amour et d'unité, dompter tout ce qu'il a jadis persécuté, se construire à lui-même une étrange monture avec toute la vie et toute la nature, sceller la croupe en feu des souffles de l'enfer et mettre un frein de flamme à la gueule du fer. On le verra vanant la braise dans son crible, maître et palefrenier d'une bête terrible, criant à toute chose, obéis, germe, nez, ajustant sur le bronze et l'acier un harnais, fait de tous les secrets que l'étude procure, prenant aux mains du vent la grande bride obscure, passer dans la lueur ainsi que les démons, et traverser les bois, les fleuves et les monts, beau, tenant une torche aux astres allumés, sur une hydre d'airain, de foudre et de fumée. On l'entendra courir dans l'ombre avec le bruit de l'aurore enfonçant les portes de la nuit.
Qui sait si, quelques jours, grandissant, d'âge en âge, il ne jettera pas son dragon à la nage et ne franchira pas les mers, la flamme au front. Qui sait si, quelques jours, brisant l'antique affront, il ne lui dira pas « Envole-toi, matière !» S'il ne franchira point la tonnante frontière, s'il n'arrachera pas de son corps brusquement la pesanteur, peau vile, immonde vêtement que la fange hideuse à la pensée inflige. De sorte qu'on verra tout à coup, ô prodige, ce ver de terre ouvrir ses ailes dans les cieux. Ô lève-toi, sois grand homme, va factieux. Homme, un orbite d'astre est un anneau de chaîne, mais cette chaîne-là, c'est la chaîne sereine, c'est la chaîne d'azur, c'est la chaîne du ciel. Celle-là, tu t'y dois rattacher, ô mortel, afin, car un esprit se meut comme une sphère, de faire aussi ton cercle autour de la lumière. Entre dans le grand cœur, va, franchis ce degré, quitte le joug infâme et prends le joug sacré. Deviens l'humanité triple, homme, enfant et femme, transfigure-toi, va, sois de plus en plus l'âme. Esclave, grain d'un roi, démon, larve d'un dieu, prends le rayon, saisis l'aube, usurpe le feu. Torse ailé, front divin, monte au jour, monte au trône, et dans la sombre nuit, jette les pieds du faune.
Le satyre, un moment, s'arrêta, respirant comme un homme levant son front hors d'un torrent. Un autre être semblait sous sa face apparaître. Les dieux s'étaient tournés, inquiets, vers le maître, et pensifs, regardaient Jupiter, stupéfait. Il reprit.
Sous le poids hideux qui l'étouffait, le réel renaîtra.
Dompteur du mal immonde, Dieu, vous ne savez pas ce que c'est que le monde. Dieu, vous avez vaincu, vous n'avez pas compris. Vous avez au-dessus de vous d'autres esprits qui, dans le feu, la nue et l'onde et la bruine, songent en attendant votre immense ruine.
Mais qu'est-ce que cela me fait à moi qui suis la prunelle effarée au fond des vastes nuits ?
Dieu, il est d'autres sphinx que le vieux sphinx de Thèbes.
Sachez ceci, tyran de l'homme et de l'érèbe, Dieu qui versait le sang, Dieu dont on voit le fond.
Nous nous sommes tous faits bandits sur ce grand mont où la terre et le ciel semblent en équilibre, mais vous, pour être roi, et moi, pour être libre. Pendant que vous semez haine, fraude et trépas, et que vous enchambez tout le crime en trois pas, moi, je songe. Je suis l'œil fixe des cavernes, je vois. Olympe bleu et ténébreuse averne, temple, charnier, forêt, cité, aigle, Alcyon, sont devant mon regard la même vision. Les dieux, les fléaux, ceux d'à présent, ceux d'ensuite, traversent ma lueur et sont la même fuite. Je suis témoin que tout disparaît. Quelqu'un est, mais celui-là, jamais l'homme ne le connaît. L'humanité suppose, ébauche, essaie, approche. Elle façonne un marbre, elle taille une roche et fait une statue et dit « Ce sera lui !» L'homme reste devant cette pierre éblouie et tous les à peu près, quels qu'ils soient, ont des prêtres. Soyez les immortels, faites, broyez les êtres, achevez ce vingt tas de vivants palpitants, régnez. Quand vous aurez encore un peu de temps ensanglanté le ciel que la lumière azure, quand vous aurez, vainqueur, comblé votre mesure, c'est bien, tout sera dit, vous serez remplacé par ce noir dieu final que l'homme appelle Assez. Car Delphes et Pise sont comme des chars qui roulent, et les choses qu'on crut éternelles s'écroulent avant qu'on ait le temps de compter jusqu'à 20. Tout en parlant ainsi, le satyre devint démesuré. D'abord plus grand que Polyphème, puis plus grand que Typhon qui hurle et qui blasphème et qui heurte ses poings ainsi que des marteaux, puis plus grand que Titan, puis plus grand que Latos. L'espace immense entra dans cette forme noire, et comme le marin voit croître un promontoire, les dieux dressés voyaient grandir l'être effrayant. Sur son front blêmissait un étrange orient. Sa chevelure était une forêt, des ondes, fleuves, lacs, ruisselés de ses hanches profondes. Ses deux cornes semblaient le Caucase et l'Atlas. Les foudres l'entouraient avec de sourds éclats. Sur ses flancs palpitaient des prés et des campagnes, et ses difformités s'étaient faites montagnes.
Les animaux qu'avaient attirés ces accords, daims et tigres montaient tout le long de son corps, des avrils tout en fleurs verdoyaient sur ses membres, le pli de son aisselle abritait des décembres, et des peuples errants demandaient leur chemin, perdus au carrefour des cinq doigts de sa main. Des aigles tournoyaient dans sa bouche béante, la lyre, devenue en le touchant géante, chantait, pleurait, grondait, tonnait, jetait des cris. Les ouragans étaient dans les sept cordes pris comme des moucherons dans de lugubres toiles. Sa poitrine terrible était pleine d'étoiles. Il cria
« L'avenir, tel que les cieux le font, c'est l'élargissement dans l'infini sans fond, c'est l'esprit pénétrant de toutes parts la chose. On mutile l'effet en limitant la cause. Monde, tout le mal vient de la forme des dieux. On fait du ténébreux avec le radieux. Pourquoi mettre au-dessus de l'être des fantômes? Les clartés, les éthers ne sont pas des royaumes. Place au fourmillement éternel des cieux noirs, des cieux bleus, des midis, des aurores, des soirs. Place à l'atome saint qui brûle ou qui ruisselle. Place au rayonnement de l'âme universelle. Un roi, c'est de la guerre, un dieu, c'est de la nuit. Liberté, vie et foi sur le dogme détruit. Partout une lumière et partout un génie. Amour, tout s'entendra, tout est en l'harmonie. L'azur du ciel sera l'apaisement des loups. Place à tout, je suis Pan, Jupiter, à genoux.